Une émission spéciale. Des questions sociétales, du sport, de l'audiovisuel, de la musique, portées par des jeunes Marseillais.
Différents horizons, pas les mêmes passions.
Unis autour d'un projet commun.
Notre challenge.
Construire ensemble une émission en une semaine. Très informé.
Très informé.
Très informé.
Salut tout le monde, bienvenue dans cette émission spéciale Très informé. Très informé, c'est un projet porté par deux médias qui proposent des contenus médiatiques différents des médias mainstream, en portant les voix qu'on entend le moins. 13 Grammes est un média qui propose du contenu principalement sur Instagram et TikTok. Avec nous autour du plateau, Rania, cofondatrice du média. Peux-tu nous en dire plus ?
Salut Nafissa. Salut. Déjà, merci de m'avoir invitée sur ce plateau. Alors, pour vous expliquer un peu plus ce qu'est 13 Grammes, donc 13 Grammes, c'est un média alternatif qui met en avant la jeunesse marseillaise principalement, et on veut à tout prix éviter tous les stéréotypes qu'on peut avoir sur cette ville. Donc dire que Marseille, c'est la drogue, c'est les mauvaises fréquentations, etc. Alors que nous-mêmes, tous autour de cette table, ou même ceux qui sont à côté, savent que Marseille, c'est le soleil, c'est la bonne humeur, le sourire et plein d'autres choses. Et donc, ce qu'on veut mettre en avant, c'est les talents, l'ambition, la jeunesse, la créativité et tout ce qu'on ne montre pas réellement dans les médias traditionnels. Voilà, tout simplement. Et c'est également, pour vous expliquer un petit peu, un média qui a été créé il y a, on va dire, un an et demi. C'est assez récent.
Merci voilà. Rania pour cette présentation. Et ce projet est aussi porté par Radio Galère. Louise, peux-tu nous en dire plus ?
Alors oui, merci Nafissa, comme Rania, de nous inviter autour de ton plateau, enfin de votre plateau très informé. Moi, je suis salariée à Radio Galère, qui est une radio associative et militante qui existe depuis les années 80. Et on est une radio libre et associative. On porte plein de voix différentes. Et là, on a décidé de monter cette formation radio pour permettre d'apprendre à faire de la radio à tout le monde, quoi.
Merci Louise pour cette présentation mémorable. Avec notre groupe venant de la mission locale principalement, nous avons suivi cette formation grâce à ces deux médias où nous avons écrit cette émission que vous êtes en train d'écouter. Mais d'ailleurs, c'est moi Lola, votre hôte du jour, qui va vous présenter le programme de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs thématiques comme le cinéma, la musique, Marseille, l'OM. Tout de suite, nous allons écouter une capsule d'inauguration du stade de foot à la Friche, suivie d'une discussion sur l'OM avec les deux Mohamed. C'est à vous.
Ce lundi a eu lieu donc l'inauguration du stade de la Friche. C'est une rénovation 10 ans après sa première ouverture. Donc ça fait énormément de bien au 3e arrondissement de Marseille.
C'est ça.
Qui se rejoint au niveau de la Friche Belle de Mai. Et on a pu voir beaucoup d'acteurs de l'OM, donc la CMA CGM, sponsor officiel de l'Olympique Marseillais, mais aussi Pablo Longoria, directeur sportif.
Rencontre du sport, du plaisir, du partage, c'est les mots d'ordre de la journée.
Bonjour madame, c'est pour le stade, voilà, l'inauguration du stade. Alors vous allez me dire ce que vous en pensez.
Ben, je trouve qu'ils ont fait un très beau stade. Au niveau des protections, c'est mieux, parce que c'est vrai qu'avant, on avait tendance à se recevoir les ballons quand on était à l'extérieur. Donc là, c'est bien qu'ils aient remonté un petit peu les barrières. Et sinon, ils ont fait un très très beau stade. Ouais, c'est pas mal.
Ok, et c'est quoi vos prénoms et vos âges ?
Alors moi, c'est Armando et j'ai 12 ans. Moi, je m'appelle Stéphane, Yordache, Alexandrou et j'ai 9 ans.
Ok, du coup, vous êtes content là du nouveau terrain ou vous en pensez quoi ?
Trop, trop.
Trop ? Vous le trouvez comment ? Beau ? Vous avez envie d'être dessus ? C'est quoi ?
Classe.
Et toi ?
La même chose.
Ok. Et vous avez le droit de jouer aujourd'hui ou c'est qui est sur le terrain là ?
À 18h ou à 19h, on va péter le terrain.
Ouais, pour les enfants du quartier, ils vont pouvoir profiter. Hein. Ça fait plaisir.
C'est clair.
Hein. Ouais, de temps en temps, parce qu'il était bien déjà, mais de rénover, ça fait toujours du bien. Chaque période, de rénover les infrastructures, ça permet aux gens de renouveler aussi, de faire un coup de propre. Quoi. Donc c'est sympa.
Que faites-vous à 84 ici ?
on crée du contenu.
Quel type de contenu, s'il vous plaît?
Pour Intersport, pour les réseaux sociaux.
Salut, moi c'est Caro, je suis photographe de la Friche depuis presque 13 ans. Et j'ai fait l'inauguration du Playground il y a 10 ans en fait. Et ça me fait trop plaisir de le voir aujourd'hui comme ça.
Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous amène à la Friche?
Bah, couvrir cet événement.
Ouais.
Couvrir cet événement, les tables rondes qui ont été couvertes, enfin, qui ont été organisées par l'AFD et la Friche. Et voir tous les nouveaux acteurs du partenariat avec l'OM. Voilà. C'est la fête.
Je suis du côté des équipes, bien évidemment. Ça permet de faire tourner tous les joueurs dans le cadre de ces rencontres tout au long de l'après-midi. Le plaisir de vous faire découvrir ce magnifique espace.
Merci à la ville de Marseille. Vous avez écouté tout à l'heure les interviews. C'était lors de l'inauguration du stade. Ici à la Friche Belle de Mai, on dit grand merci à la ville marseillaise pour ce beau stade. Et Mohamed, tout à l'heure, on va parler du club de l'OM, l'Olympique de Marseille, depuis le Classico dernier perdu au Parc des Princes sur le sol parisien. Et nos Olympiens quand même qui ont réussi à trouver un peu d'air fraîche ici à la maison le dimanche dernier en s'imposant face au TFC Toulouse ici à l'Orange Vélodrome sur ce score de 3-2. Et on a vu ce grand Olympique de Marseille porté par un grand Adrien Rabiot. Et Momo, tout à l'heure, on parlait de 13 hommes, comme vous l'avez si bien dit au début, avant qu'on écoute ces différentes interviews. Et Momo, pour toi, quand on parle de 13 hommes, parce qu'on connaît Marseille, c'est dans les Bouches-du-Rhône, c'est le 13, c'est sacré ici à Marseille. Ça parle de la fierté de la ville, de l'identité et de son âme. Et pour toi, tu peux nous parler un peu de quand on parle du 13 homme à Marseille, ça, cela signifie ou nous rappelle quoi?
Effectivement, le 13e homme, c'est très important pour Marseille. Comme tu l'as dit, c'est l'arrondissement, mais surtout l'Olympique de Marseille, c'est un club qui est souvent décrit comme un club passion, où les supporters sont à fond et très engagés dans leur match. Au final, on utilise souvent l'expression 12e homme pour qualifier les supporters qui sont en dehors du terrain, mais qui sont là pour porter cette équipe vers l'avant avec leurs chants, leurs applaudissements, toute leur joie et même les tristesses. Et Marseille, c'est le 13e, donc c'est la ville. Et c'est pour montrer que l'OM, ça fait partie de la ville. C'est très important pour la ville et la ville est très importante pour le club. Ils sont de pair et l'un ne va pas sans l'autre. Ils cèdent et ils avancent ensemble.
Et voilà, merci Momo. Ça se ressent d'ailleurs quand vous rentrez à l'Orange Vélodrome. Lors des matchs, on sent réellement qu'il y a ce public qui est derrière ce club. Et c'est ce qui est vraiment magnifique. Et pour rappeler que l'OM, quand même, depuis ce classico dernier, a perdu à Paris. Et voilà, ça ramène ça suscite à beaucoup de questions. Mais d'ailleurs, demain, l'Olympique de Marseille qui sera en déplacement au stade Jean-Louis D, ça sera à Monaco à 17h. Et Marseille, quand même, faudra rebondir parce que nous nous approchons maintenant à la fin de ce championnat. Et l'année prochaine, il faut une place pour jouer les Coupes d'Europe. Et voilà, c'était tout qu'on pouvait dire sur l'Olympique de Marseille dans cette émission. Merci Nafi de nous inviter sur ce plateau.
Merci les gars. On va écouter une petite musique avant de passer à la discussion sur l'impact du cinéma sur les comportements humains. So this is goodbye.
This is goodbye. Prêt les enfants?
Oui, capitaine!
J'ai pas entendu!
Oui, capitaine!
Wow! Il vit dans un ananas dans la mer.
Yo, Moha! Comment ça va?
Ça va et toi?
Ça va, ça va. J'ai une petite devinette pour toi.
Vas-y.
Qui vit dans un ananas dans la mer?
Je sais pas, Bob l'éponge carré?
Bingo! C'est ça!
Let's go.
Mais d'ailleurs, tu sais qu'il y a eu une étude comme quoi les enfants, ils deviendraient hyperactifs?
Ah bon? C'est quoi comme étude exactement?
C'est dans l'université de Virginie. Sur des enfants de moins de 6 ans, il a fait des tests avec 3 groupes d'enfants. Un groupe d'enfants a regardé Bob l'éponge pendant 9 minutes. Et suite à ça, ils ont fait un test de concentration et ils ont tous échoué. Deuxième groupe, ils ont regardé le dessin animé Caillou. Et devine quoi, le test a réussi avec eux. troisième test avec le troisième groupe. Les enfants n'ont pas regardé de dessin animé, mais ont dessiné d'eux-mêmes. Et encore une fois, ils ont réussi. Les seuls qui ont échoué, c'est ceux qui ont regardé Bob.
Je trouve ça intéressant comme étude. Effectivement, Bob, c'est un dessin animé qui se veut être rapide, enchaîner les blagues. Donc, c'est compréhensible qu'il diminue l'attention des enfants. Après, si je devais mettre une petite critique, voire même nuancée, Bob l'éponge n'est pas un dessin animé qui est de base destiné aux enfants de moins de 6 ans. Le public visé par Nickelodeon est donc les 6 à 11 ans. Et si je devais conseiller ou parler d'un dessin animé qui est plutôt visé du coup à ce public, plus de Dora Exploratrice, qui est d'ailleurs un cas de dessin animé très intéressant, c'est un dessin animé qui se veut ludo-éducatif. Donc le but, c'est à la fois divertir les enfants, mais aussi de les éduquer. On les fait interagir, le rythme est très lent. Pour reprendre des exemples d'interaction, c'est Dora qui pose une question, par exemple, où est la montagne ? Puis ouais. Les enfants qui vont, du coup, montrer où est la montagne. Et Dora qui va, du coup, infirmer ou affirmer la réponse. Ça a pour but, donc, d'engager l'enfant, comme je disais précédemment, de garder son attention et de lui apprendre via divers mécanismes. D'ailleurs, en France, grâce à Dora, beaucoup d'enfants ont pu apprendre l'anglais. Après, de toute façon, je trouve personnellement que les médias ont toujours, et les productions audiovisuelles ont toujours eu pour but, au fond, de nous influencer à toute la partie. Bob l'éponge ne le fait pas spécialement exprès parce que ce n'est pas le but du dessin animé, mais du coup, Dora a pour but d'apprendre aux enfants. Mais pour prendre d'autres exemples, je peux parler par exemple de La Ligne Verte ou de American Story X, qui sont des films qui sont ancrés dans la lutte antiraciste. C'est deux films qui se passent en prison, où des hommes noirs sont en prison et qui rencontrent donc d'autres protagonistes qui sont des hommes blancs. Et tout au long du film, ils vont déconstruire les clichés que l'Amérique raciste avait sur les hommes noirs et au final montrer que, peu importe notre couleur de peau, on est humain. Après, tu peux me dire si tu as des expériences ou quoi, ou un avis divergent.
Ah oui, oui, grave. Moi, je parlais de l'un de mes animés préférés qui est Naruto. Je me rappelle quand j'étais petite et que je me faisais embêter, je me sentais comme une paria. En fait, ça me faisait penser à l'histoire de Naruto, où justement, dedans, par rapport au village caché de Konoha, on voit que le personnage principal est considéré comme un paria. Tout le monde le déteste à cause d'une histoire qu'il y a eu avec une grande bête. Bref, en gros, je me sentais un peu comme lui dans certains moments de ma vie. Et en fait, en suivant les épisodes tout au long, en voyant qu'il n'a pas lâché l'affaire, qu'il était persévérant, qu'il s'est battu et que finalement son travail a porté ses fruits, ça m'a moi-même motivée à garder le smile, à faire rire les autres et je m'en porte bien.
Oui, effectivement, pour prendre l'exemple de Naruto, c'est un animé ou manga, ça se lit de deux façons, qui a influencé au final toute une génération, même les mangas de type shonen ont influencé toute une génération. Je peux citer Dragon Ball, du coup Naruto, One Piece. Et souvent, on a des protagonistes qui sont des porteurs de bonnes valeurs, qui veulent influencer la jeunesse vers une certaine direction, garder l'optimisme, chasser ses rêves. Et c'est une bonne chose. Ça influe la façon de penser d'un individu, mais aussi de toute une génération.
Oui, ça peut influencer d'une bonne façon aussi.
Après, moi personnellement, si je devais donner une expérience, j'ai commencé la guitare grâce à un animé, Bocchi the Rock. Donc, pour résumer rapidement, c'est une jeune fille très timide qui se retrouve à rejoindre un groupe de rock par mégarde, on va dire. Et on suit l'aventure du coup un peu de ce groupe de rock pour devenir connu. Et du coup, réaliser le rêve du personnage principal qui est de devenir une rockeuse, si on peut l'exprimer comme
ça. Une rockstar!
Exactement. Ça influence sur les passions, mais il ne faut pas oublier que des fois, ça peut avoir des aspects négatifs sur l'influence. Parce que on avait intitulé le cinéma, mais aussi on peut parler d'autres médias. Notamment, si je devais citer TikTok, on est sur des vidéos, un peu comme Bob l'éponge d'ailleurs, on peut faire un parallèle sur ça, sur des vidéos qui du coup sont très courtes. Bob l'éponge, c'est un épisode, un dessin animé de 4 minutes, c'est plutôt lent, c'est plutôt rapide.
Ouais.
C'est plutôt très rythmé pour un dessin animé pour enfants. Et du coup, TikTok aussi, c'est très rapide pour des vidéos. On est sur des formats en général qui font moins d'une minute, qui se scrollent très rapidement, dont on prend le contenu, puis l'oublie au bout de même pas quelques minutes. Et du coup, on peut faire un parallèle avec Bob.
C'est vrai, j'avais entendu aussi que TikTok pouvait altérer la concentration des gens. à cause de la vitesse, la rapidité, la facilité de... Enfin, un peu nous rendre feignants par rapport à ça aussi.
Je dirais pas feignants, je pense pas que c'est exactement le bon terme, mais c'est vrai que du coup, une des conséquences qui découle, c'est l'augmentation du taux de procrastination chez les utilisateurs TikTok, excusez-moi. Mais c'est juste parce que TikTok est une application qui influe sur le mécanisme de notre cerveau sans rentrer dans les termes techniques. Ça fait juste réagir notre cerveau extrêmement rapidement, comme un peu Bob l'éponge, et nous fait perdre certains aspects de notre concentration. Après, il y a aussi d'autres médias qui se veulent plus lents pour justement augmenter cette concentration, ou en tout cas essayer de retrouver peut-être un équilibre. En ce moment, sur YouTube, on voit l'émergence des formats longs. Donc, quand je dis format long, je parle souvent de quelque chose qui veut plus de 20 minutes, voire même parfois plusieurs heures, et qui, du coup, justement, crée un équilibre à la jeunesse entre TikTok et format long.
En amont, on a aussi parlé des effets négatifs sur la façon dont on voit la société et les relations entre individus. C'est-à-dire que les relations amoureuses, tu nous en parlais pendant la préparation de cette émission, où tu nous expliquais que les séries, les animés, ça va les créer certains idéaux qui en fait ne sont pas accessibles, voire sont basés sur des biais racistes, misogynes.
Sur le male gaze, en effet, ça se propage même justement les idées que d'où émergent ces... film, ça se propage carrément justement sur les réseaux sociaux, ce qui est un petit peu catastrophique, je dois l'avouer. Enfin, c'est mon opinion. Et en fait, oui, on voit qu'il y a des standards qui sont peut-être un peu surélevés et irréalistes par rapport à ce qu'on peut faire, en fait. Est-ce qu'il est possible de faire ? Est-ce que tout le monde veut vraiment la même chose ? Telle est la question.
Est-ce que tu as un exemple ?
Je pense au K-drama, par exemple, où dedans, on voit toujours le stéréotype, le gars, il est riche, beau, grand, tout ce que tu veux, c'est même un thug. Et la fille, elle est toujours pauvre, c'est un peu le truc de Cendrillon, voilà, c'est toujours le gars qui va sauver la fille, etc. Et il y a beaucoup de femmes qui idéalisent justement la Corée à cause de tout ça. Et croient que en fait, la vie, c'est comme dans les K-dramas. Alors que, il y en a beaucoup qui ont été très déçus quand ils se sont rendus compte sur place que, non, les Coréens sont des êtres humains comme nous tous.
Après, je pense que là aussi, ce qui joue, c'est vrai qu'effectivement, ça donne certains standards irréalistes. Mais une grande partie de ça, faut savoir que arriver à faire la différence entre la fiction et la réalité. Après, de toute façon, dans le fait que ça nous influence depuis la nuit des temps, même avec des livres, la fiction nous donne certains idéaux à atteindre. Je vais prendre l'exemple de Roméo et Juliette, parce que c'est ce qui me vient en tête. Mais beaucoup des scènes qui se veulent romantiques se passent de nuit, parce qu'à l'époque, c'était vu comme les relations étaient quelque chose de plutôt secrète, surtout qu'en plus, c'était une relation interdite dans le contexte. Donc le secret rajoutait quelque chose, une tension romantique. Et du coup, de nos jours, ça se voit plus avec les couchers de soleil, où on essaie de fusionner quelque chose d'esthétiquement beau avec quelque chose de la relation qui est censée être belle. C'est-à-dire que le coucher de soleil, on le voit souvent comme quelque chose de beau, vu que c'est exceptionnel, ça arrive qu'une seule fois, et on veut à peu près la même chose dans les relations.
Ouais, en fait, ils idéalisent beaucoup la romance, et par rapport au film, en fait, on nous influence comment on devrait voir le romantisme, comment on devrait le ressentir. C'est un peu problématique parce que tout le monde se fixe certaines limites, certaines règles qui ne sont pas à portée de tous. Par exemple, justement, comme je le disais, la richesse, même le physique, les classes sociales, la force, tout ça, ça fait rêver beaucoup de gens. C'est vrai que, moi, je dirais pas non, mais...
Ouais, effectivement, c'est très intéressant. Et je pense que c'est une question qu'au final, on devrait tous se poser. Je vais maintenant laisser la place à Liliane et sa chronique musicale.
Donc bonjour tout le monde, moi c'est Liliana et je vais vous présenter ma chronique musique. Je vais vous parler aujourd'hui du Bon Air Festival à l'occasion de sa 10e édition cet été à Marseille. Donc avant tout, le Bon Air Festival, c'est un festival de musique électronique qui a été lancé en 2016 à la Friche Belle de Mai, où nous sommes actuellement d'ailleurs dans les studios de Radio Galère, qui est en fait une ancienne manufacture de tabac reconvertie en lieu culturel depuis 1992. Ce festival, qui a lieu en juin cette année, donc le 6, 7 et 8 juin, a été pensé dès 2015 par le collectif Bipole, qui sont également résidents à la Friche. Et du coup, est-ce que vous connaissez Bipôle ?
Non, pas du tout.
Ok. Donc Bipôle, en fait, c'est une agence marseillaise spécialisée dans la production, la communication et le booking artistique autour des musiques électroniques et indépendantes. Le Bon Air Festival, en fait, il met en avant son esprit communautaire. C'est un événement qui est très attaché à la diversité, l'inclusivité et l'énergie collective. On le retrouve d'ailleurs dans sa programmation variée, où nous avons pu voir des noms internationaux, comme Nina Kravitz, par exemple, donc l'année dernière, qui est une DJ et productrice russe, ou encore Laurent Garnier, qui est ambassadeur de techno français, qui est déjà venu plusieurs fois au festival. Il y a également des collectifs locaux, comme Pata Negra, qui est un collectif et label marseillais de 5 DJ nés en 2021. Mais il y a aussi des talents émergents, comme notamment Goldie B, qui a pu voir son passage au festival l'année dernière comme une porte en fait vers d'autres horizons, notamment à Berlin et Amsterdam cette année. Donc on a de la chance, la programmation de cette année est complète sur le site, donc je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse, mais je peux vous donner déjà quelques artistes pour vous mettre un peu l'eau à la bouche. Donc il y a notamment le duo irlandais Bicep. Donc voilà. Donc voilà, vous avez pu entendre ce duo irlandais qui va venir cette année, donc avec son titre Glue que vous connaissez potentiellement. Il y aura également Mickey, donc l'artiste actuel franco-coréenne qui perce en ce moment et qui est venu d'ailleurs en amont en mars, donc cette année à La Friche pour faire un showcase. Et pour citer d'autres personnes, il y a également un B2B entre Bussie P et Chloé Caillet, qui est une artiste venue de New York. Donc Bussie P, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le nom de scène de Pedro Winter, qui est producteur et compositeur de musique électronique français. Et pour ceux qui ne connaissent toujours pas, c'est entre autres l'ancien manager des Daft Punk. Et il a aussi découvert Justice. Pour la petite anecdote, il y a aussi Bob Sley qui va être présent cette année, passé en service civique à Radio Galère. Donc voilà. Et donc, pour revenir un peu sur le B2B, qu'est-ce que c'est ? Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est un format de performance DJ où deux artistes se relaient en jouant ensemble. En gros, ils se partagent le set à tour de rôle. Pour résumer, le Bon Air Festival, c'est l'esprit de Marseille, version électronique. Pour rappel, il a lieu le 6, 7 et 8 juin cette année à la Friche Belle de Mai pour sa 10e édition. Voilà, c'est la fin de ma chronique et j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve en juin. Donc, je vous laisse avec le titre « Can't Nobody Stop Me » de Goldie B. Merci beaucoup.
Écoutez, vous êtes toujours sur Radio Galère, la fréquence 88.4 dans l'émission Très Informée. Et maintenant, nous passons à notre table ronde animée par Thaïs.
Salut tout le monde et à tous les auditeurs et auditrices de Radio Galère. En début de semaine, avec le club de Très Informée, enfin la formation qu'on a fait toute cette semaine, on s'est demandé les points en commun qu'on avait et en fait, ce qui a émergé en principal, c'est notre âge, le fait qu'on est tous des jeunes. Et qu'on habite tous à Marseille, mais que la ville de Marseille, en fait, elle prend des aspects différents suivant nos subjectivités. Marseille, en chiffres, c'est 870 000 habitants. C'est la deuxième ville la plus peuplée de France entre Paris et Lyon. En termes de superficie, elle est hyper grande. Elle a 16 arrondissements qui prennent 760 mètres carrés. En comparaison, Paris, c'est 105 mètres carrés, kilomètres carrés. Donc voilà, elle prend beaucoup de place sur le territoire. Et moi, ce que je voulais voir avec les gens qui sont autour de cette table, c'est comment on s'empare de cette ville suivant le rapport qu'on a avec elle. Donc, ce que je voulais savoir en premier, c'est les gens qui sont autour de cette table, est-ce que vous êtes née à Marseille ? Par exemple, Rania, es-tu née à Marseille ?
Je suis absolument pas née à Marseille.
Ok.
Je suis née dans le Nord-Pas-de-Calais,
okay.
Dans le 62, rien à voir.
Ok.
Mais je suis venue à mes 11 ans ici sur Marseille, donc ça va, je me la suis un peu attribuée, on va dire, et appropriée.
Ok, trop bien. Jules ?
Du coup, moi, je viens juste d'arriver il y a tout ça 4 mois. Donc, je commence à m'imprégner un peu de la ville, à comprendre comment marchent les arrondissements parce que je viens pas d'une grande ville. Mmh. Et voilà, on peut dire que j'adore cette ville pour le moment et qu'elle me charme plutôt, plus ou moins.
Du coup, t'as capté le truc d'escargot pour les arrondissements ?
J'ai commencé à comprendre, ouais. C'est compliqué.
Ok, trop bien. Adrien, est-ce que t'es né à Marseille ?
Déjà, merci de m'avoir invité sur ce plateau.
Mais avec plaisir.
Ensuite, moi, je suis né du coup à Aubagne, mais j'ai vécu ma vie du coup à Marseille, donc je me sens plus marseillais.
Ok.
Donc voilà.
Ok. Et toi, est-ce que tu es né à Marseille ?
Non, moi, je suis de Gap.
Ok.
C'est pas loin de Marseille.
Ok.
Mais il y a pas longtemps aussi, je suis là. C'est une belle ville, Marseille, franchement.
Ok.
C'est une ville que j'aime bien parce qu'il y a le beau temps, le soleil et tout.
Du coup, tu pourrais dire que t'aimes Marseille, genre que c'est officiel ? Je sais pas.
Oui, je pourrais le dire comme ça.
Ok, trop bien. Après, moi, je voulais savoir, vu que, comme je l'ai dit, c'est une ville qui s'étend sur beaucoup de territoires, est-ce que vous pouvez me dire où est-ce que vous habitez, genre pas votre adresse exacte, parce que, attention, des gens nous écoutent, mais quel est votre arrondissement ou votre quartier, et est-ce que vous en sortez, ou vous avez tout ce qui vous plaît, tout ce qui vous convient dans votre arrondissement, et du coup, vous en sortez pas trop ? Qui veut répondre en premier, peu importe.
Oui, moi j'habite dans le 14e.
Mm-hmm.
Et c'est un quartier, on connaît les quartiers nord de Marseille, c'est un peu chaud.
Ouais.
Tout ce qu'on dit autour, les trafics de drogue, les stoups et tout.
Mm-hmm.
Mais franchement, moi je suis à côté de la fac Saint-Jérôme, c'est un beau quartier. Et parfois c'est calme, mais voilà... Il y a un quartier juste à côté, les Oliviers, où chaque soir, tu vois, les CRF, les keufs, tu vois, un peu.
Okay.
Donc, les quartiers nord de Marseille, c'est un peu comme ça aussi. Mais bon, ça fait partie et on est dans cette ville, il faut s'adapter, il faut vivre avec.
Ok. Adrien ?
Donc, du coup, moi, je suis au 10e. Donc, en fait, c'est un quartier, il est plutôt calme. Mais après, contrairement aux apparences, il s'est passé des choses aussi sombres. Donc, je sais pas si je peux le dire, mais... Il y a eu du coup deux meurtres.
Ouais.
Il y a eu un scooter. C'était quelqu'un qui était en scooter. Il a fusillé quelqu'un. Et ensuite, il s'est passé quelque chose aussi. Il y a eu quelqu'un qui s'est fait poignarder. Mais après, en dehors de ça, c'est un quartier qui est plutôt calme et plutôt beau. Et voilà.
Ok.
Moi, j'habite du coup dans le 4e, au Chartreux. Je pense que c'est aussi un quartier archi calme. J'ai l'impression qu'il y a principalement des vieux. Mais en tout cas, on est.
Chartreux.
C'est ça. Je suis grave bien desservi pour tout ce qui est la plaine, le cours Julien, et même pour aller à la mer. En vrai, finalement, il faut même pas 30 minutes de transport. Donc, non, ça tue.
Carré. Rania, ton rapport avec ton quartier ou ton arrondissement ?
Moi, je suis dans le 9e.
Ok.
Donc, c'est un quartier où, du coup, j'ai vécu pas toute ma vie, du coup, mais.
Mais depuis que t'es à Marseille,
depuis que je suis
dans
sur Marseille, exactement, okay. Je suis dans le 9e. Je me vois pas aller autre part. Parce que personnellement, je m'y suis habituée. J'ai tout à proximité, que ce soit en termes de transport, que ce soit par rapport à la plage ou autre. Je suis vraiment à côté de tout. Donc non, franchement, j'ai rien à redire sur ce quartier. Au contraire,
tu le kiffes.
Il n'y a que du positif. Exactement. Et toi, du coup, on ne t'a pas posé la question.
Moi, j'habite à Baille, c'est le 5e arrondissement. Et c'est un quartier que je kiffe pas trop. C'est clairement pas le mien, parce que moi, je suis arrivée à Marseille en septembre. Donc, ce n'est pas non plus ma ville. Mais c'est une ville qui est arrivée à un moment particulier dans ma vie, donc je la chéris très fort, mais je pense que je peux clairement pas me dire marseillais, sinon on me taperait dessus en fait. Et voilà pour ce qui est de mon quartier. Ben, en vrai, c'est bail, c'est un bail qui est bien desservi, genre c'est bien placé dans la ville, mais il n'y a pas de vie de quartier. Enfin, je suis pas du tout ancrée dans mon quartier, et en vrai, ça c'est un truc que je kifferais bien. Et j'ai l'impression que vu que c'est un peu un hub de transport et tout, c'est quelque chose qui se passe pas trop. Genre, les gens se connaissent pas, il n'y a pas de spécial en commerce et tout. Enfin, c'est assez résidentiel. Mais j'ai clairement pas à me plaindre. J'ai deux dernières questions qui seraient genre si vous devez donner, pas forcément dans votre arrondissement, mais vous pouvez le faire si vous avez des exemples. En vrai, c'est chouette, comme ça on fait découvrir aux auditeurs vos lieux préférés. Genre, j'aimerais bien que vous en donniez au moins un, et s'il y en a deux, c'est trop cool. Adrien, tes lieux préférés à Marseille ou dans ton arrondissement?
Du coup, à Marseille, moi, mon lieu préféré, c'est vers les Goods. Mmh. Parce qu'en fait, j'adore aller là-bas pour voir la vue. Ouais. Parce qu'il y a une belle vue sur la mer, tout ça.
Ouais.
Après, il y a aussi les collines, parce que moi, j'aime bien la nature et tout. C'est paisible, j'aime bien.
T'escalades?
Ouais, ça aussi, ouais.
Ok.
Ouais, j'aime bien escalader, je fais de la musique, je me baigne, tout ça, voilà, avec mes potes. Et voilà.
Tu fais de la musique au Goods?
Non, je mets les écouteurs.
Et... Ok. J'ai cru que toi, t'emmenais genre.
Non.
Ok.
Et voilà, c'est tout.
Toi, dis-moi.
Moi, mon lieu préféré à Marseille, c'est à l'Estac.
Ok.
Il y a la plage. Et j'y vais souvent pour manger des panisses aussi.
Ouais, c'est connu pour ça. Je ne sais pas
si vous connaissez. Voilà, donc, c'est l'un de mes endroits préférés ici à Marseille.
Tu vas solo ou tu vas avec des gens?
Non, avec des potes souvent.
Ok. Ouais. Pose panisse Estac, la frappe.
Carré, ouais.
Moi, je vais grave rejoindre Adrien, les Goudes et même le parc des Calanques. C'est trop bien. Enfin, le côté nature, tu peux te balader, il y a la mer, tu peux te baigner. Et encore une fois, les écouteurs, la musique, ça fait tout. Ça accompagne le mood, c'est trop bien. Donc ouais, le parc des Calanques.
Mais les paysages sont vraiment fous. C'est vrai que c'est une dinguerie. Genre moi, je dis que j'habite en vacances, pardon.
C'est pas faux. Non, c'est pas grave, je t'ai coupé, mais c'est pour la bonne cause. En vacances. C'est une dinguerie. Non, je suis d'accord. Bah, j'allais rejoindre Adrien et... Et Jules, j'ai totalement zappé, autant pour moi. Les Goudes, les Calanques, tout ça, c'est grave ma cam aussi. Et aussi, par rapport au quartier, j'habite à côté du Corbusier. Et franchement, je kiffe cet endroit. Donc si vous pouvez y jeter un petit coup d'œil.
Genre la cité radieuse?
Ouais, la cité radieuse.
Okay. J'y suis jamais allée. Est-ce qu'il faut réserver? Enfin, je sais pas, moi, à chaque fois que je veux y aller, il y a des bails bizarres.
Non, c'est ça. Il faut réserver en avance. Et même si tu peux, c'est pas totalement faisable parfois, mais les toits de la cité radieuse sont incroyables. Donc si un jour vous pouvez y accéder, foncez. Vraiment.
Ouais. Ok. C'est sur ma to-do list marseillaise. J'avoue, j'ai pas coché.
Il la faut. Il faut la cocher bientôt.
Je sais. Et enfin, dernière question, est-ce que vous diriez, au vu des questions que j'ai dit, mais même de votre proximité, de votre vie personnelle, est-ce que Marseille, c'est ta ville, Adrien?
Marseille, est-ce que c'est ma ville? Du coup, vu que j'ai vécu durant toute mon enfance, quoi, je dirais que oui, c'est ma ville, et puis je m'y sens bien, parce qu'il y a une bonne ambiance. Les gens là-bas, je les aime bien aussi, parce qu'ils ont tout le temps sourire. Voilà, ils ont le sourire. J'aime bien Marseille aussi parce que l'été il fait beau, il y a le soleil, il y a la mer, il y a l'ambiance, et voilà.
Ok. Est-ce que c'est ta ville?
Marseille, oui. Franchement, moi je dirais que c'est ma ville. Mais on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Okay. Tu vois, parce que vie, on prend de l'âge.
Donc tu devrais bouger à un moment
donné
dans ta vie.
À un moment donné, on a envie de faire des choses dans notre vie. Peut-être on va se déplacer après. Mais pour le moment, Marseille, ça reste une super ville. Et voilà, on a envie de rester le plus longtemps possible.
Ouais, tu m'étonnes.
Moi, je pense que c'est pas encore ma ville. Je pense que ce sera ma ville en devenir. Mais un peu comme toi, je suis arrivé que récemment. Du coup, je m'imprègne plutôt. Mais j'avoue, déjà, les gens qui sourient tout le temps, c'est trop agréable. Ça rend la vie trop heureux. Et le soleil, c'est trop bien. Et voilà, en vrai, ça va devenir ma ville, c'est certain, d'ici quelques années.
Il fait beau tout le temps, ce n'est pas une légende. Il fait toujours beau. Mmh.
Je rejoins un peu tout le monde. Je pense aussi que Marseille... c'est ma ville, même si j'ai fait plusieurs villes, donc que ce soit Nice, Paris ou autre, ou même le Nord-Pas-de-Calais. Marseille, c'est vraiment la ville où je me sens le mieux, où je me sens la plus comprise, où je suis vraiment moi-même.
Donc, la plus attachée à Marseille que à d'autres.
C'est vraiment la ville où je peux dire je m'y sens le mieux.
Fabuleux, une déclaration d'amour c'est ça, à Marseille. Finalement. Merci Marseille bébé quoi. merci les gars, on en a fini.
Merci à toi.
Merci à toi.
Et merci à Marseille d'exister et à tous ces gens fabuleux qui la peuplent. Et je repasse la parole à notre maîtresse de cérémonie, Nafissa.
Merci à vous. C'est la fin de cette émission très informée. Merci à Moha, Mohamed, Thaïs, Liliana, ainsi qu'à Rania, Mamadou, Adrien à la caméra. Merci d'avoir participé, mais surtout à Aya et Rania de 13 grammes, Louise et Jules de Radio Galère. et tous les intervenants. Merci de nous avoir formés et bien sûr, merci aussi à vous, nos auditeurs. C'était Lala pour Radio Galère.